Et les pouvoirs forts, souvent, aussi bien sûr les pouvoirs religieux. Quand un pouvoir fort s'installe, Joseph II en Autriche, fin du XVIIIe, Napoléon Bonaparte, l'Allemagne, l'URSS, évidemment, le premier geste, c'est toujours de fermer les loges maçonniques. Et, on le sait peu, mais le premier endroit qui a été occupé par l'Allemagne nazie à Paris, c'est la rue Cadet, c'est le siège du Grand Orient de France. Les Allemands, évidemment, pouvaient aller éventuellement à l'Élysée. Je ne sais pas si à l'époque l'hôtel Matignon était on y travaillait, si le Premier ministre y était. Mais non, ils sont venus rue Cadet comme s'il y avait là une espèce de germe dangereux de libéralisation, au bon sens du terme évidemment et non pas économique, de l'individu. Donc cette liberté de conscience n'est pas acquise. Pour ce qui est du deuxième terme, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, à notre avis, dans les grandes démocraties occidentales, c'est quasiment acquis. Je le dis souvent, il y a très peu de chances qu'en France, ou dans ces démocraties, on ait bientôt un dirigeant qui soit un évêque, un imam ou un rabbin. Très peu de chances. Très peu de chances. Moi, j'y crois pas. Par contre, et c'est là que la laïcité prend toute sa valeur dans la lutte contre les cléricatures, on peut très bien avoir un mystique de l'argent. Et quand on parle de laïcité, c'est-à-dire de liberté absolue de comportement et de pensée, de conception, il faut bien évidemment envisager toutes les cléricatures. Et à mon avis, la plus grande des cléricatures et la plus dangereuse à ce niveau-là est la cléricature de l'argent. Je regardais, j'étais ce matin dans un avion, j'ai atterri il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que, pardonnez-moi, mais peut-être je serai un peu confus, mais vous allez voir, j'arrive de temps en temps quand même à retomber sur mes pieds. Je regardais un film dans l'avion, c'était Inside Job. La manière dont la crise de 2008 est arrivée, la manière dont des grandes institutions comme Lehman Brothers, comme Goldman Sachs, avec une vision qui est une vision mystique de l'argent, et là, on reparle de religion. Ils mettent l'argent comme une eschatologie. C'est un but ultime. Et même chez nous, ici, en France, on a attendu à un moment, comme un but philosophique, de travailler plus pour gagner plus. Je ne veux attaquer personne ni tirer sur les ambulances. Mais quand même, à un certain moment, on a pu se poser la question de savoir pourquoi on nous disait ça. Et dans Inside Job, on s'aperçoit que finalement, ceux qui ont provoqué les crises se retrouvent maintenant, y compris d'ailleurs avec M. Obama, mais ils sont maintenant en Europe. M. Monti en Italie, M. Papademos en Grèce, M. Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne, ce sont tous des hommes de chez Goldman Sachs, en plus non démocratiquement élus. Et ça, si ça n'est pas dans une vision qui est une vision mystique de l'argent, où nous, laïcs, nous devons être extrêmement attentifs, et je vous le dis, que ce soit en Équateur, en Nouvelle-Calédonie ou au Togo, ce message passe par contre. Parce que nos contemporains admettent très bien ces cléricatures-là, parce qu'ils les subissent aussi. Ils les subissent, quel que soit le niveau de leur vie et le niveau de leur réflexion. Donc, nous voilà quand même, à ce moment-là, dans une cléricature où on a une solution. Et c'est une solution qui, je vous le rappelle, a été envisagée par ceux qui avaient dessiné les contours politiques de la laïcité, c'est-à-dire Ferdinand Buisson n'était pas de la maison, je crois, mais c'est pas grave. Léon Bourgeois. Et c'était des solidaristes. C'était des hommes qui avaient dit « La laïcité ne va pas sans la solidarité. » Dans un pays comme le nôtre, je parle de la France, où il y a 8 millions de pauvres, où il y a 10 millions de chômeurs, on ne peut pas se dire laïque. On ne peut pas se dire laïque. Parce que, pourquoi ? Simplement, parce que quand il y a un déni de l'existence, il y a en même temps un déni de la pensée. Alors évidemment, vous voyez que je sors un tout petit peu du cadre habituel de la religion et de l'État. La question pour moi ne se pose plus comme ça et on ne doit plus la poser comme ça parce que sinon On va se trouver dans nos combats qu'on connaît très bien et qu'on a menés, moi-même d'ailleurs, depuis des années. C'est-à-dire qu'on va cantonner les problèmes laïcs aux problèmes du voile islamique, aux problèmes... Et on va retomber, d'ailleurs, dans un ostracisme et un rejet qui est bien clair, c'est celui de la religion musulmane. Il faut le savoir. Gilles Kepel, qui aurait dû être là à ma place, le dit très bien, et j'en ai parlé plusieurs fois avec lui. Dans nos banlieues, moi j'habite dans le 93, hein, j'ai été médecin dans le 93 pendant 40 ans, médecin de quartier. Donc moi je connais très très bien ces problématiques. Dans ma banlieue, quand je me suis installé en 1965, je me suis trouvé confronté à des gens de mon pays, du Maghreb, qui étaient des gens parfaitement laïcs, parfaitement républicains, et qui rêvaient pour leurs enfants d'un avenir dans la République française, évidemment, avec une profession plutôt gratifiante, médecin, avocat, fonctionnaire, journaliste. Bon, d'accord, mais petit à petit, la deuxième, surtout la troisième génération, et maintenant la quatrième, on les a vus petit à petit se communautariser, on a vu les filles se voiler, on a vu les petits-enfants et les arrière-petits-enfants maintenant, les garçons porter la barbe rituelle et se raser. On est dans une évolution qui est une évolution parfaitement décryptable dans le 93. C'est-à-dire que les populations musulmanes, évidemment, constituent le gros des populations défavorisées. Et on a une réaction qui est une réaction de rejet, où on est bien obligé de dire que la laïcité, là, n'a strictement rien à voir avec la religion, mais avec la déshérence physique, sociale des individus. Ça, c'était le deuxième terme. Le troisième terme, quand on parle de laïcité, on ne saurait se priver de parler de spiritualité. Il y a des gros mots comme ça, vous savez, que moi j'aime bien employer. Religion, politique, spiritualité, simplement parce que j'ai été médecin et que je me suis aperçu que dans ma spécialité même, professionnelle, la spécialité était accaparée non pas par les citoyens, mais par ceux qui la pratiquaient. C'est vrai aussi pour la politique, c'est vrai pour la religion. La religion, et moi j'ai le plus grand respect, quoique n'étant pas religieux, pour la religion appartient à ceux qui la pratiquent, et non pas à l'institution religieuse. Et si nous, nous combattons quelque chose, c'est bien les institutions. Et quand je parle de spiritualité, ça va être ma conclusion, je dis que nous avons tous, évidemment, un esprit, au sens où le disait Jean Jaurès. Jean Jaurès disait que la plus grande chose qu'il y a au monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. Il disait ça dans un discours de janvier 1885. Bien sûr, évidemment, nous avons un esprit commun, sans immanentisme. Et nous sommes aussi dans une recherche de transcendance. On peut être dans une recherche de transcendance en étant laïque, évidemment, sans immanentisme, sans idée de Dieu au-dessus. Pourquoi faudrait-il que la transcendance soit liée à l'idée de Dieu? Voilà une vraie question. Et alors là, il ne s'agit pas d'athéisme. Il s'agit de la reconnaissance de l'identité des hommes et des femmes de ce temps et en même temps de leur dignité. Alors, on tourne un tout petit peu en rond sur la laïcité et sur l'ensemble des problèmes qui la concernent pour des raisons de sémantique. Je suis entièrement d'accord. Et il va falloir à un moment ou à un autre, non pas qu'on gomme le concept, parce qu'il ne faudrait quand même pas que l'on dise que la laïcité a fondé la République telle qu'elle est à l'heure actuelle. Elle est dans la Constitution. Hier soir, j'étais à Gebwiller. Je parlais en Alsace de la laïcité. À mon avis, c'est presque aussi difficile de parler en Alsace de la laïcité qu'en Tunisie ou au Maroc. Simplement parce qu'il y a le concordat en Alsace. Et que cette vision très particulière qu'ont les Alsaciens, qui lient d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qu'ils attachent à certains avantages qu'ils ont retirés non pas de la loi concordataire ou du décret concordataire de 1801, mais de l'Allemagne après 1870. Donc ces avantages, ils lient par exemple le salaire des prêtres ou des rabbins, ils le lient à aux avantages qu'ils ont sur le plan social, aux lois sur les associations, à la sécurité sociale, etc. Et ils nous disent, quand j'y vais, et quand ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai été à Strasbourg et j'étais discuté avec le maire de Strasbourg, qui est Roland Ries, un type parfaitement formidable, mais qui dit, voilà, moi je suis très attaché au Concordat. Et quand on essaye de le mettre devant ses contradictions, il dit, mais attention, si vous touchez au Concordat, vous allez ouvrir une boîte de Pandore, et derrière on va nous supprimer tous les avantages sociaux qu'on a eus depuis des années. Alors, c'est vrai qu'il y a des histoires complexes dans nos pays différents. On en a même à l'intérieur de notre pays. Parce que je vous affirme que parler de laïcité ici, rue Cabanis, c'est pas la même chose que de parler de laïcité à Saint-Denis de la Réunion. Ou à Nouméa. Ou à Nouméa. Parler de laïcité avec les Kanaks. Et vous verrez que c'est pas un discours facile. Alors donc, je termine quand même là-dessus. Si on ramène la laïcité à ses fondamentaux, parce qu'il faut revenir à avant la loi de 1905, liberté absolue de conscience qui a débouché sur la séparation des églises et de l'État, solidarité, spiritualité, à ce moment-là, le discours peut passer même avec des religieux. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci beaucoup. Juste pour l'anecdote, j'habite juste à côté de Bagnolet, dans la commune de Pantin. Et un jour, un copain m'a dit, toi qui t'intéresses aux questions de laïcité, tu devrais aller voir un médecin généraliste à Bagnolet, qui est un type fantastique, qui s'appelle Guy Arcizé. Il est adoré de ses patients, etc. Voilà. Bon, vous avez évoqué le siège du Grand Orient de France, rue Cadet. Il me semble que c'est dans ce lieu précisément que pendant la campagne présidentielle, François Hollande, donc alors candidat, a annoncé son souhait d'inscrire dans la Constitution les deux premiers articles de la loi de 1905. S'il vous a réservé la primeur de cette annonce, c'est sans doute qu'il savait qu'il vous ferait plaisir. Mais dans les jours qui ont suivi, il a ajouté qu'il souhaitait également constitutionnaliser le Concordat. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Il faudra que je vous fasse des confidences, là. Parce que c'est vrai que l'annonce qu'il nous a faite lors de sa conférence rue Cadet nous a paru dans la ligne directe, peut-être pas du Grand Orient, vous avez compris qu'on a une vision qu'on essaye d'élargir, mais au moins de la gauche française. Et tout de suite après est arrivée cette histoire du Concordat et peut-être de la possibilité de constitutionnaliser le Concordat. Alors là, on a quand même fait des bons sur nos chaises et on a demandé à voir certains de ses proches, dont, je peux le dire, Jean Glavanis, je ne pense pas que ça l'empêchera d'aller au perchoir s'il a envie d'y aller, qui était finalement très embêté. En disant, on a été un peu vite, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Je l'ai vu en tête à tête pour en parler, et je dois avoir, et alors là, c'est pas un secret, je dois avoir une confrontation au plus haut niveau de l'État, là, bientôt, sur cette problématique où, alors, moi, je vais vous donner ma position. On n'a rien à gagner pour l'instant à avoir une attitude qui pourrait rigidifier les comportements et faire heurter des sensibilités dont je vous ai dit qu'elles ne sont pas prêtes à évoluer. C'est vrai que, personnellement, ce qui me gêne le plus dans le Concordat, c'est par exemple que le président de la République nomme les évêques, ou que le Premier ministre s'occupe des prêtres et des rabbins. Ça me paraît beaucoup plus, peut-être encore que, sur le salariat qui, vous le savez tous, s'accompagne d'un certain avantage de fonctionnaires, puisque les prêtres, les rabbins ont la possibilité, et les ministres du culte luthérien et réformé ont la possibilité de toucher l'assurance chômage. Alors je ne sais pas comment ça se passe, mais je serais assez surpris que certains la touchent. Et donc, moi, ça me gêne. Et hier, dans le dialogue que j'ai eu avec les Alsaciens, ma position a été de dire, je ne pense pas que pour faire un coup, qui soit un coup politique, on ait intérêt à constitutionnaliser dans l'urgence à la fois la loi de 1905. De toute façon, on est dans une république laïque, hein, c'est dans la Constitution, on ne va pas se casser la tête, elle est dans la Constitution, et en même temps le concordat, ce qui pourrait nous amener quand même plus tard à au moins un blocage de la situation, parce que nous sommes beaucoup, et même parmi les Alsaciens, à espérer que les choses vont avancer. Et que un jour, certains proposaient hier, par exemple, des solutions en disant que, vous savez que, enfin, vous le savez certainement, en Alsace, il faut déclarer sa religion, ce qui est quand même très particulier dans le monde occidental démocratique. En plus, quand votre enfant va à l'école, il faut faire un certificat pour pas qu'il ait de cours de religion. Donc là aussi, on se trouve devant des contradictions qui sont très gênantes. Donc tout ça, quand même, on est beaucoup à espérer que ça va évoluer. Et il y a une possibilité, à mon avis, de dialogue avec les Alsaciens, et en particulier avec les plus durs d'entre eux, parce qu'ils sont tous élus. Sur ce plan-là, ce sont les politiques. Les politiques alsaciens, avec une unanimité parfaite et totale, défendent le concordat, hein, ça c'est clair. Et il faut en parler avec eux, et je pense qu'on pourra faire avancer les choses, et les loges maçonniques en Alsace s'y emploient. On essaye d'instaurer des dialogues, mais sans se heurter. Voilà. On en est là pour l'instant. Pour ce qui est de la position que je pourrais avoir, moi, si je suis confronté à ceux qui nous gouvernent à l'heure actuelle, moi, je suis pour un attentisme, au moins, pour l'instant.
Bien. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup.